Slate Podcast.
Bonjour, c'est Kate Evan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaëlle Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert.
Dans le documentaire « Sexe sans consentement » de Delphine Dilly et Blandine Grosjean, sorti en mars 2018, il y avait tous ces témoignages passionnants, terrifiants, sur la zone grise du consentement. Sur ces rapports sexuels qui avaient eu lieu alors que les femmes n'en avaient pas eu envie. Et il y avait cette femme notamment, peut-être 25 ou 28 ans, châtain, créole aux oreilles, sourire rouge, elle racontait une fête qui avait eu lieu chez un garçon. À un moment donné de la soirée, il avait commencé à l'embrasser et à l'emmener dans sa chambre. Elle avait gentiment dit non, il avait fermé la porte derrière eux. Elle lui avait dit « non, je préférerais rentrer chez moi ». Une fois, deux fois, et il avait continué. Et puis elle a cette phrase « il y a aussi cette question de rester poli ». Elle dit ça, elle dit « il y a aussi cette question de rester poli ». Elle a arrêté de dire non et de résister parce qu'elle avait peur, parce qu'il était plus costaud, mais aussi pour rester poli. Et un peu plus tard, elle dit encore « j'aime pas être pas gentille ». Et elle rit en le disant parce qu'elle se rend compte. Ces quelques mots m'avaient fait chavirer parce que je me suis souvenue de toutes ces fois où j'avais voulu être gentille et polie, de toutes ces fois où les femmes tiennent compte de l'homme en face d'elles au lieu de tenir compte d'elles-mêmes, de l'emprise que l'homme en face de vous peut avoir par tout ce qu'il représente, tout ce que l'on nous apprend, non pas seulement à respecter mais à révérer. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média, et l'épisode d'aujourd'hui est signé Iris Ouedraogo.
En septembre 2014, je commence à travailler dans une librairie, qui est une grosse librairie en province, qui organise tous les jours des rencontres avec des écrivains et des écrivaines. Et moi, mon rôle, je suis stagiaire, c'est d'organiser tout en amont, de contacter les éditeurs, de contacter les journalistes, de préparer la rencontre, et le jour J, d'aller chercher ces auteurs et ces autrices à la gare, de les accompagner à leur rendez-vous et de faire en sorte que tout se passe bien. C'est un boulot que j'aime beaucoup, je suis une grosse lectrice. Du coup, d'être dans cette ambiance de lecture, de livres, et de rencontrer ces écrivains, ces écrivaines, qui sont des personnalités politiques, des historiens, des poètes, c'est vraiment un boulot que je trouve excitant et qui me réjouit tous les jours, qui me plaît beaucoup. Un jour, fin décembre, c'est une grosse journée au niveau rencontre. On a 4 personnes qu'on doit accueillir dans la même journée. C'est une logistique hyper compliquée. Et finalement, j'arrive en retard avec une collègue à la gare et on récupère les écrivains et écrivaines du jour. Et puis parmi ces personnalités, il y avait Paul. Paul, c'est un écrivain que j'admire beaucoup. Il est comédien, il est écrivain et je lis beaucoup ce qu'il fait depuis longtemps. Et du coup, je rencontre ce Paul, et c'est très étonnant parce que à la gare, tout de suite, je m'entends assez mal avec les autres personnalités qui sont là, qui sont assez froides, assez agacées par la logistique. Et Paul, il est très simple, il est très marrant, et il se réjouit tout de suite d'être arrivé. Et du coup, je l'emmène. On part tous ensemble au restaurant. On a prévu de déjeuner ensemble. C'est un groupe très hétéroclite, très bizarre, avec la moitié qui râle et la moitié qui se réjouit d'être là. Et moi, j'ai une connivence qui se crée assez vite avec Paul. Je savais qu'on était un peu sur la même longueur d'onde sur nos intérêts culturels et politiques. Mais c'était surprenant parce que c'est peut-être le premier écrivain qui me considérait pas comme une potiche. Parce qu'en fait, dans cette librairie, c'est vrai que je suis souvent prise pour une secrétaire, une hôtesse, et pas pour ce que je suis, une organisatrice de rencontres. Et lui, il va me parler normalement, il va me poser des questions sur ma vie, il va me considérer comme une amatrice de lecture, comme une autre. Et c'est vrai que c'est un moment très, très agréable qu'on passe ensemble au restaurant. Finalement, la journée continue, la rencontre se passe bien, on arrive à s'en sortir dans cette logistique un peu compliquée. Et arrive le soir, il fait des dédicaces et il faut qu'il parte. On se retrouve sur le parvis de la librairie avec mon patron, lui et moi. Et en fait, il est convenu qu'il doit revenir d'ici quelques mois parce qu'il a un autre livre en préparation. Et là, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe, c'est qu'il me demande mon numéro. Il cherche à prendre mon numéro pour qu'on organise directement la prochaine rencontre ensemble, sans passer par mon patron. Et je suis assez surprise, parce que certes, on a eu cette connivence, mais j'ai pas l'habitude d'échanger mon numéro perso avec les écrivains. Et je me demande, à ce moment-là, si effectivement... il n'y aurait pas plus qu'une simple connivence amicale. Je me questionne sur ses intentions, en fait. Et en même temps, on s'est tellement bien entendu que je donne mon numéro et qu'au fond, je me réjouis de pouvoir échanger avec lui pendant les prochains mois pour préparer la rencontre suivante. Après cette première rencontre, je suis assez fière d'avoir retenu son attention et... Je suis assez excitée par l'idée de pouvoir être amie avec quelqu'un que j'admire autant et qui est une personnalité publique de son envergure. Et en même temps, je suis un peu intriguée par ce moment où il me demande, où il m'a demandé mon numéro. Et juste après, en fait, juste après cette rencontre, tout début janvier, il commence à m'écrire. Il m'écrit un message, il m'écrit deux messages, et à chaque fois, c'est des messages très, très enjoués, en fait. Très, très enthousiaste à l'idée de pouvoir me revoir fin février. Et moi, je comprends pas. Je suis assez étonnée. Et c'est à ce moment-là que je commence à ressentir un malaise parce que la situation est étonnante et je me demande quelles sont ses intentions. J'ai du mal à comprendre, en fait, ce qu'il veut. Et du coup, je suis partagée entre... la curiosité, l'impatience de comprendre ses intentions, la fierté de susciter de l'intérêt pour lui et le malaise, parce qu'au fond, j'ai pas du tout envie d'une relation autre que amicale avec cet homme-là. Et c'est comme ça que se passent les deux mois jusqu'à sa rencontre. On arrive en février, et en février, hasard du calendrier, mon stage se termine quelques jours avant la date où est prévue la rencontre avec Paul. Et moi, je suis assez déçue parce que j'ai quand même envie de voir où pourraient mener ces échanges de messages qu'on a eus. Et j'ai envie de comprendre ses intentions. Du coup, ce que je fais, c'est que je lui dis que je ne serai pas là. Je lui annonce que mon stage se termine. Et en même temps, je me débrouille pour rester. Je demande à mes collègues... d'organiser une surprise, en fait, et de m'autoriser à m'occuper de lui comme si je travaillais encore, mais en n'étant plus stagiaire à la librairie. Du coup, je lui annonce que je serai pas là. Il m'envoie des messages déçus, là encore, trop fort, trop bizarre, trop absurde. Mais bon, ça confirme un peu mes questionnements. Et ça renforce mon envie de comprendre ce qu'il veut. Le jour de la rencontre, je me glisse dans le public et je suis hyper stressée, hyper nerveuse par cette situation, à la fois hyper impatiente de voir comment il va réagir et en même temps, c'est quand même une situation un peu improbable et je suis très impressionnée à l'idée de sa... Enfin, en fait, ses réactions... m'impressionne. Je sens que cette personne tout entière m'impressionne et j'ai peur de comment elle va réagir tout en étant très excitée à l'idée de savoir comment il va réagir. Et du coup, je suis là, je suis dans le public, je suis toute excitée et je le vois. Ce qu'il raconte me plaît. Et là, il me voit. Je sens qu'il est très déstabilisé et en même temps qu'il est très heureux. Et à la fin de la rencontre, je vais le voir, je lui explique que je lui fais une surprise, que je suis là et qu'on va dîner ensemble. Et il n'arrive pas à cacher sa joie, il a l'air très, très réjoui. Je vais donc le chercher après la rencontre à son hôtel et je l'emmène avec une autre stagiaire qui est une collègue à moi et son attaché de presse qui est là aussi. Et on va tous les quatre dans un restaurant. C'est un restaurant assez chic qui fait de la nourriture traditionnelle et en même temps assez raffinée. C'est cosy, c'est un endroit que je connais bien. J'y vais très régulièrement avec les écrivains qui viennent dans ma ville. Et on est bien. Et c'est amusant parce que ils étaient hyper, hyper contents d'être là. Son attaché de presse et lui, très, très réjouis, très détendus. Et ils ont décidé de se faire plaisir. Donc on y va, on commande beaucoup de nourriture, on commande de l'alcool, on se prend la coupe de champagne avant. Et c'est un moment très agréable, on rigole beaucoup, on se raconte notre enfance, on se raconte notre vie. On dirait vraiment quatre amis qui se retrouvent. Et moi, je me sens bien. Et en même temps, j'ai toujours un peu ces arrière-pensées de me demander... Je me dis, c'est le moment. S'il me drague, c'est le moment où il va me draguer. Et en même temps, je suis jamais sûre que j'ai vraiment envie qu'il me drague. En fait, j'ai aucune idée des conséquences si cette drague est réelle. Et en même temps, je suis vraiment trop impatiente de comprendre la situation et de comprendre ses intentions. Alors à la fois, je suis bien et à la fois, je suis stressée. Et j'attends et je guette. Et à un moment donné, les deux filles partent fumer, je me retrouve seule avec lui et je me dis « c'est le moment, il va faire quelque chose, il va me dire quelque chose. » Et en fait, il dit rien, il fait rien. Moi, évidemment, je fais rien. Et on a juste une conversation intéressante et une super complicité. Et finalement, je me dis « ok, il se passe rien. » C'est pas plus mal parce que j'en voulais pas en fait. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait autre chose et ça me surprend de voir qu'il n'y a rien de plus. Et en même temps, je suis soulagée. Je suis soulagée parce que j'en avais pas envie, j'ai pas de désir pour lui et je me dis que ce sera tellement plus simple. Pas de complications, pas d'échanges compliqués. Au moins, les choses sont claires, pas de drague et c'est super, on va pouvoir avoir une amitié... chouette entre nous. Du coup, le dîner se termine. On sort, on se dit au revoir. Chacun repart de son côté. Lui va à l'hôtel avec son attaché de presse. L'autre stagiaire rentre et je rentre chez moi. Et je suis assez contente de cette soirée. Soulagée, j'ai eu ma réponse. Et c'était vraiment, vraiment un moment agréable. Quelques minutes après qu'on s'est séparés, je regarde mon portable par réflexe et je vois qu'il m'a écrit. Il me dit « à très vite » avec plein de points d'exclamation. Et là, je me dis « je sais pas pourquoi, je me dis c'est le moment. Je lui écris maintenant, point d'interrogation. » Et il me répond tout de suite « je t'attends. » À ce moment-là... Je suis hyper stressée, hyper excitée, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je me pose pas deux secondes la question de ce que je veux. Je me dis juste qu'il m'attend. Je rentre chez moi, je prends une bouteille d'alcool. On avait fait une blague autour d'une bouteille d'alcool et du coup je l'attrape. Je repars direct et j'arrive à l'hôtel. En fait, quand je reçois ce message, ça correspond tellement à ce que je m'étais attendue de cette soirée. Et ça renforce le sentiment et l'idée que j'avais eue de la drague que je me pose plus de questions. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aie le cœur net. Du coup, je vais à l'hôtel. Et c'est un sentiment très bizarre de rentrer dans un hôtel à 1h ou 2h du mat en tant que femme. Finalement, j'arrive, j'entre dans sa chambre, je fais l'air de rien, comme si c'était quelque chose d'extrêmement naturel d'arriver dans une chambre d'hôtel à 2h du mat. On entre et on commence à discuter. On reprend les discussions qu'on a eues dans la soirée au restaurant. On boit de l'alcool, on est bien. Et on passe comme ça plusieurs heures à se raconter nos vies de manière toujours aussi, j'ai envie de dire, innocente. Et à un moment donné, il y a un blanc. Et là, j'ai peur parce que je sais ce qui va se passer. Et c'est presque comme si c'était la première fois que je prenais conscience de ce qui allait se passer. Et du coup, il s'approche de moi, il prend ma main, il commence à l'embrasser. Et il lève ses yeux sur moi et je vois son regard. C'est un regard de désir extrêmement fort, auquel je m'attendais pas du tout. C'est un regard qui me dégoûte, c'est un regard qui me fait peur. Et là, je me dis que j'ai qu'une envie, c'est de partir. Que j'ai eu ma réponse. J'étais pas folle, il me draguait. J'en veux pas, il faut que je parte. Mais évidemment, j'ose pas le dire. Je me sens bloquée, j'ai l'impression qu'il faut que j'assume. Que si je suis venue ici, c'est pour quelque chose et qu'il faut que j'y aille jusqu'au bout. Alors je laisse m'embrasser et on commence à faire l'amour. Moi, je me sens complètement déconnectée de mon corps. J'ai l'impression que c'est pas moi. J'ai pas envie d'avoir l'impression que c'est moi. Et je le laisse faire. Je le laisse exprimer son désir en me disant que ça va passer vite. Finalement, ça se termine. Il me propose de rester dormir et je sais pas pourquoi je saisis pas cette opportunité de partir. Encore une fois, je me sens pas autorisée à partir et je fais semblant d'être contente d'être là. Et j'accepte. On dort ensemble, moi je dors pas beaucoup. Le lendemain matin, il se réveille, il me regarde, il me dit que il est heureux d'être là, que ça lui fait plaisir de se réveiller avec moi. Je lui réponds quelques banalités comme si moi aussi j'étais contente. Et on se lève, il commande un petit déjeuner. Il est très à l'aise, il est très à l'aise, il va prendre sa douche, il laisse ses affaires en vrac. Il agit comme si c'était son quotidien, en fait, d'avoir ce genre de relation. Et moi, je suis terrifiée, je suis pas bien. Mais je sais pas ce que je déploie comme talent de comédienne, mais je crois que je lui laisse croire que je suis aussi très à l'aise et que ça me plaît d'être là. Du coup, il se doute de rien et je reste. On prend un petit déjeuner ensemble, on est dans un hôtel sympa, on a une belle vue. On rigole, on parle de plein de choses, on a quand même beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de passions en commun. Et vient le moment de se séparer, je lui demande si on va se revoir, comme si c'était à lui de définir les modalités de cette relation. Il me dit qu'il en aurait envie, que forcément si on se revoit, il aura envie qu'il se passe quelque chose. Et j'acquiesce, comme si c'était mon devoir, comme si c'était quelque chose qu'on attendait de moi. Et j'avais pas envie de le décevoir, en un sens. Je crois que je me sentais pas autorisée à le décevoir. Comme si je devais être là pour lui et comme si je devais correspondre à ses attentes. Après cette nuit, je rentre chez moi un peu à garde, un peu en mode automatique. Et une demi-heure après, je vois qu'il m'a écrit. Son message est comme les autres, trop. C'est un message qui me dit que cette nuit était géniale, qui garde l'odeur de mon corps sur sa peau. C'est quelque chose de, que je trouve complètement niais et complètement inadapté à la situation et tellement éloigné de ma propre perception de cette nuit-là que je suis assez choquée. Et en même temps, comme depuis la veille, je me sens obligée de lui répondre. Alors je lui réponds que c'était chouette, je lui réponds que j'ai hâte de le revoir. Et pendant les semaines qui suivent, c'est vraiment ça qui se passe. Il m'écrit, il est enjoué, il commence même à m'appeler. Moi, je me sens obligée de lui répondre. Alors je réponds au téléphone et je décide même de faire quelque chose d'un peu particulier. J'apprends qu'il va participer au salon du livre et je décide de m'y rendre. Là encore, en lui faisant une surprise, je me prépare, j'ai stressé, je le retrouve là-bas. Lui, il est en train de faire des dédicaces, il y a beaucoup de lecteurs qui sont là, de clients. On peut pas se dire autre chose que des banalités. Mais je vois qu'il est heureux de me voir et moi, j'ai l'impression que mon devoir est rempli de l'avoir rendu heureux de me voir. C'est très bizarre. Finalement, je pars et on n'a pu se voir que quelques secondes. Moi, j'ai traversé Paris pour aller à ce salon. Et lui, quand il sort du salon, il m'appelle et j'ai passé 20 secondes, mais 20 secondes tellement longues. Je passe 20 secondes à regarder mon téléphone et à me dire « c'est pas possible, c'est pas lui, je peux pas répondre ». Et je réponds et je me planque dans ma chambre. Je me mets dans mon lit et je réponds l'air de rien. Ah, salut Paul, c'est super, ça me fait plaisir. Et on se raconte notre vie. Et au fond de moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas du tout envie d'avoir une relation amoureuse avec Paul. Pourtant, ça en prend le chemin. Ouais, je me sens vraiment régulièrement stressée, nerveuse, mais incapable d'agir sur ce stress et incapable de ne pas répondre et de ne pas rentrer dans son jeu. Les semaines qui suivent, en plus, j'ai déménagé, je vais commencer un nouveau boulot, je rencontre de nouvelles personnes, je me sens très nerveuse. Je me sens très nerveuse en particulier quand il m'écrit et quand il m'appelle. On s'appelle régulièrement, enfin, il m'appelle régulièrement et je réponds. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'installe. Je me sens vraiment perdue parce que j'en ai pas du tout envie et en même temps, je suis pas du tout capable d'arrêter ça. Je décide d'en parler à certains amis, mais j'en parle jamais avec les termes qui décrivent la réalité. J'explique à certains amis que je suis devenue amie avec Paul. Et j'en tire une certaine fierté, en fait. Je suis amie avec Paul, ce fameux Paul qu'il et elle connaissent aussi. Et je leur explique qu'on a une relation chouette, qu'on se raconte beaucoup de choses. Et je crois que j'essaie de me convaincre au fond que c'est ça que j'ai avec lui. À d'autres personnes, dans d'autres conversations, je vais pouvoir raconter que j'ai une relation sexuelle avec un écrivain. Mais je leur dis jamais que c'est Paul. Et surtout, je leur dis jamais que je l'ai pas voulu. Et là aussi, je le dis sur un ton très léger de « Tiens, c'est marrant, petite anecdote dans ma vie, regarde ce qui m'est arrivé. J'ai eu une relation sexuelle avec un écrivain, ça sort de l'ordinaire. » Mais voilà. Au fond, ce que je me dis, c'est ce que je dis à mes amis. Je me dis que j'ai une relation amicale avec un écrivain et avec une personne qui m'intéresse Et par ailleurs, j'ai eu une relation sexuelle un peu hors norme. Et j'essaie de me convaincre que c'était finalement une expérience de plus et que c'était pas grave. Il y a un autre élément à ce moment-là qui contribue à faire grandir mon malaise, c'est que je commence à fréquenter un garçon et à créer une relation amoureuse avec lui. Et je sens que je suis dans le mensonge parce que je lui parle pas de Paul. Et j'ai tellement pas envie que cette relation existe que je me persuade qu'elle n'existe pas. Mais au fond de moi, je sais bien qu'elle existe et qu'elle est problématique aussi vis-à-vis de ce garçon. Et un jour, je fais un rêve. Je rêve que je suis avec, d'un côté, ce garçon et de l'autre, Paul. Et je le raconte à ma psychanalyste. Et elle me dit quelque chose qui m'énerve. Elle me dit « Mais oui, vous êtes entre deux hommes. » Et pour moi, c'est cette phrase, c'est un vrai déclic parce que je me dis qu'elle est complètement à côté de la plaque. Je me dis « Mais pas du tout, je suis pas entre deux hommes. Je suis avec un homme et il y en a un autre qui a une emprise sur moi. » Et je crois que c'est vraiment le moment où je prends conscience de l'emprise de Paul sur moi. Et c'est le moment où je décide de couper. C'est le moment où je décide d'arrêter ça, de me libérer de cette emprise. Et au fond, le fait d'être avec un garçon, c'est une très bonne excuse pour arrêter. Le lendemain, je décide d'écrire à Paul. Je lui propose de s'appeler. Pour la première fois, je prends l'initiative de lui écrire ou de l'appeler. Et je lui explique, comme une rupture classique, que j'ai rencontré quelqu'un et que j'ai pas envie de lui mentir et que j'aimerais bien qu'on arrête de se fréquenter, en tout cas de cette façon-là. Il est déçu. On dirait un enfant au téléphone. Il est triste et déçu, mais il accepte. Il me propose qu'on reste amis. C'est une phrase tellement banale et je me sens... Je me sens tellement soulagée. Je me sens tellement, tellement libérée. Je me dis vraiment une bonne chose de faite. Enfin, je vais pouvoir vivre sereinement cette relation que je suis en train de créer avec quelqu'un de sain. Et enfin, cette emprise dont je commence à percevoir l'ampleur va pouvoir se terminer. Je me sens libérée, mais en fait, j'arrive pas à arrêter d'y penser. Paul m'écrit, il n'a pas compris que je voulais plus entendre parler de lui, il continue à m'écrire. Cette fois-ci, je lui réponds moins, mais je lui réponds toujours. Je lui réponds plus froidement, mais je laisse pas un message sans réponse. Et je me sens encore, au fond, complètement... étouffée justement par cette relation parce que je sens l'inégalité entre nous. Je sens que lui, il est libre et que moi je suis empêtrée dans ses sentiments négatifs et obligée en fait à entendre parler de lui tout le temps et obligée à recevoir ses messages. J'ai vraiment l'impression que je n'arriverai jamais à le faire partir. Un jour, quelques mois plus tard, il m'envoie un autre message. Un message pour me demander des nouvelles, un message banal. Mais ça faisait quelques semaines qu'il ne m'avait pas écrit, j'avais commencé à l'oublier. Et ce message, il me provoque une crise de panique. J'ai du mal à respirer, je fais tomber mon téléphone par terre, par maladresse, mais par perte de mes moyens. Et à ce moment-là, il y a mon copain qui arrive, par coïncidence. Il me voit dans tous mes états, il comprend pas, et là, je lui explique tout. Et je lui explique aussi mon ressenti, le malaise que je ressens à chaque fois que je reçois un de ces messages. Et il m'encourage tout simplement à le partager à Paul, à l'exprimer enfin. Et du coup, je décide de le faire. J'écris ce jour-là un long message à Paul où je lui explique que j'ai mal vécu cette nuit passée à l'hôtel. Je ne pense pas que c'est de sa faute parce que il ne l'a pas vu ou n'avait pas tous les éléments pour le voir, mais que je suis très mal à l'aise de cette situation et que je veux ne plus jamais entendre parler de lui. À ça, il me répond un message très dramatique, comme à son habitude, en me disant qu'il va supprimer tous mes messages. Il me demande de faire de même. Et il me dit adieu. Je lui en veux, parce que à aucun moment, il s'est posé la question de notre rapport. Il s'est jamais dit que le fait d'être quelqu'un de connu, il s'est jamais dit que le fait d'être un homme ou que le fait d'être quelqu'un de plus âgé que moi pouvait influencer sur mes décisions. Et je lui en veux de ne pas avoir cherché à vérifier mon consentement ou de ne pas avoir explicité ce rapport pour s'assurer de ma liberté. Je supprime ses messages, je supprime son numéro. Et là, je crois que là, je me sens vraiment, vraiment plus libre. Après lui avoir écrit et avoir vraiment coupé la relation avec lui, je me sens vraiment soulagée et en même temps, je commence vraiment à prendre conscience de l'impact que ça a eu sur ma vie les mois précédents et sur ma vie à ce moment-là. À un moment donné, je fais un rêve qui me fait vraiment comprendre l'étendue de l'emprise qu'il a eue sur moi et la réalité, en fait, de cette emprise. Je rêve que je suis dans un appartement, dans un hôtel, en fait, très élégant, avec beaucoup de symboles du pouvoir intellectuel, avec une grosse bibliothèque, avec des beaux meubles. Et il y a un homme devant moi, un homme respectable, un homme, je crois qu'il est médecin dans mon rêve, et sa femme est à côté. Cet homme est charmant avec moi jusqu'au moment où je veux partir. Et là, il commence à sortir son sexe et à me montrer son sexe. Moi, je veux partir, je veux fuir, et il me laisse pas partir. Mais il me bloque pas forcément physiquement, mais il fait en sorte que je ne puisse pas partir. Et dans ce rêve, je suis complètement tétanisée et je cherche une stratégie pour partir, mais je ne la trouve pas. Et je n'ose pas partir brutalement, en courant ou en le poussant. Et je me retrouve face à lui, qui a son sexe sorti, et qui a un regard fou. Un regard de joie, et un regard de jouissance de ce pouvoir qu'il a sur moi. Et ce rêve, je crois qu'il me permet de comprendre en fait l'intensité de la violence de ce sentiment et l'intensité de l'emprise et du rapport de force qu'on a pu avoir, ne serait-ce que par rapport à son âge. Il a l'âge de mon père, son statut social, le fait qu'il soit marié. Ce moment, c'est vraiment un moment de transition dans ma vie. Je me pose beaucoup de questions sur mon rapport aux hommes et où j'ai de plus en plus de mal à supporter en fait le désir masculin que je vis comme imposé à moi et comme exigeant quelque chose de moi, puisque c'est comme ça que j'ai pris en compte le désir de Paul. Et j'ai l'impression que le désir masculin exige toujours de moi une réponse et que je peux pas m'y soustraire. Et du coup, c'est un moment où je décide de m'y soustraire. Et ça, ça passe notamment par le fait de me raser le crâne. Je m'achète une tondeuse et je décide de me raser le crâne. En me rasant les cheveux, j'ai senti qu'il y avait moins d'attentes et de désirs des hommes pour moi. Et je me suis sentie tellement libérée, tellement bien. À ce moment-là, mon objectif assez conscient, c'est vraiment de mettre à distance la personne que j'étais quand j'ai eu cette relation avec Paul. Cette personne passive, cette personne qui n'ose pas dire non et qui n'agit que pour plaire. C'est passé aussi par être beaucoup plus intraitable sur mon consentement dans mes relations sexuelles. Et c'est un moment hyper important pour moi de transition. Ouais. Et là, vraiment, mon travail, c'est de me libérer de ça. C'est de faire mes propres choix. C'est d'affirmer, quitte à être chiante, quitte à déplaire. Et c'est surtout apprendre à dire non. 2 ans plus tard, je raconte cette histoire à une amie et elle me dit qu'elle a quelque chose à me montrer. Et elle me montre un épisode de la série Girls. Un épisode qui raconte l'histoire d'une jeune femme journaliste qui va interviewer son écrivain préféré. Mais elle va le faire parce qu'elle sait que cet homme est accusé d'avoir harcelé sexuellement des femmes. Et elle va, en quelque sorte, lui demander des comptes. Et tout l'épisode montre à quel point cette femme, qui est certes dans l'admiration, mais qui est sur la défensive, cet épisode montre comment elle rentre dans un rapport d'emprise, elle aussi, avec cet écrivain, subtilement, comment il joue avec elle pour obtenir d'elle, finalement, des faveurs sexuelles qu'elle n'était pas du tout venue pour donner. Et cet épisode a été très révélateur pour moi. J'ai eu l'impression d'y voir une partie de mon histoire, évidemment pas la même chose, mais une partie. Et au fond, je me demande si aujourd'hui, je serais pas, malgré mon travail sur moi-même, je serais pas, comme elle, incapable de dire non. Elle qui est sur la défensive, elle qui a des armes pour se défendre, eh bien, elle est quand même dépassée par ces rapports de force qui sont difficiles, qui sont violents et qui sont omniprésents. Je pense que c'est encore dur pour moi de dire non aujourd'hui et que je peux me retrouver à tout moment encore dans ce genre de situation. C'est un processus long. C'est un processus long d'apprendre à dire non.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Ouedraogo. La musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Merci à Adélie Pojman-Pontet et Maureen Wilson pour leur aide à la production. Transfert est produit par Louis Media pour Slate.fr. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. Et bien sûr, vous pouvez continuer de suivre Transfert et Slate et Louis sur tous les réseaux sociaux et nous écrire à podcast@slate.fr. À très vite.
C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.